Wilkie Collins. Les deux destinées. Le prélude. Le convive raconte l'histoire du dîner. Bien des années se sont écoulées depuis que ma femme et moi nous quittâmes les États-Unis pour rendre notre première visite à l'Angleterre. Nous étions munis, cela va sans dire, de lettres d'introduction, parmi lesquelles il y en avait une écrite pour nous par le frère de ma femme. Elle nous présentait à un gentleman anglais qui occupait le premier rang sur la liste de ses anciens et précieux amis. « Vous ferez la connaissance de M. Georges Germaine, me dit mon beau-frère lorsque nous prîmes congé de lui, à une époque très intéressante de sa vie. Les dernières nouvelles que j'en ai reçues m'apprennent qu'il vient de se marier. Je ne connais ni la dame, ni les circonstances qui l'ont mise en rapport avec mon ami, mais ce dont je suis certain, c'est que, marié ou célibataire, Georges Germaine, par égard pour moi, vous accueillera cordialement en Angleterre, vous et votre femme. » Le lendemain de notre arrivée à Londres, nous déposâmes notre lettre d'introduction chez M. Germaine. Le lendemain matin, nous allâmes visiter un objet favori de la curiosité américaine dans la métropole d'Angleterre, la Tour de Londres. Les citoyens des États-Unis trouvent cette relique des bons vieux temps fort utile à l'accroissement de leur appréciation nationale de la valeur des institutions républicaines. En rentrant à l'hôtel, les cartes de M. et Mme Germaine nous apprirent qu'ils nous avaient déjà rendu notre visite. Le même soir, nous reçûmes une invitation à dîner chez les nouveaux mariés. Elle était jointe à un petit billet de Mme Germaine à ma femme pour nous avertir que nous ne devions pas nous attendre à trouver une nombreuse société. C'est le premier dîner que nous donnons depuis notre retour de notre voyage de noces, écrivait la dame, et vous ne serez présenté qu'à quelques vieux amis de mon mari. En Amérique, et, m'assure-t-on, sur le continent d'Europe également, lorsque votre hôte vous invite à dîner à une heure précise, vous lui faites la politesse d'arriver ponctuellement chez lui. Ce n'est qu'en Angleterre que prévaut l'incompréhensible et discourtoise coutume de faire attendre l'hôte et le dîner pendant une demi-heure et plus, et sans meilleure excuse que l'apologie de pure forme impliquée dans ces mots « Désolé d'être en retard ». Arrivés à l'heure fixée chez M. et Mme Germaine, nous n'eûmes qu'à nous féliciter de l'ignorante ponctualité qui nous avait introduite dans leur salon une demi-heure avant les autres convives. En premier lieu, il y eut tant de cordialité et si peu de cérémonie dans l'accueil qu'on nous fit que nous nous imaginâmes presque être de retour dans notre patrie. En second lieu, le mari et la femme nous intéressèrent à première vue. La dame, en particulier, bien qu'elle ne fût pas strictement parlant jolie, nous fascina complètement. Il y avait dans sa figure et ses manières un charme naïf, dans tous ses mouvements une simplicité gracieuse, dans sa voix une grave et délicieuse mélodie qui nous parurent, à nous Américains, simplement irrésistibles. Et de plus, il était si facile et si agréable de constater que c'était là un heureux couple. Nous avions devant les yeux deux individus qui avaient mis en commun leurs plus chères espérances, leurs désirs et leurs sympathies, et qui, si je puis me permettre cette expression, paraissaient nés pour être mari et femme. À l'expiration du retard à la mode d'une demi-heure, nous causions ensemble aussi familièrement et aussi intimement que si nous avions été de vieux amis. 8 heures sonnèrent et le premier des convives anglais parut. Comme j'ai oublié le nom de ce gentleman, on me permettra de le désigner par une lettre de l'alphabet. Appelons-le donc Monsieur A. Quand il entra seul dans le salon, notre hôte et notre hôtesse tressaillirent et parurent tous deux étonnés. Évidemment, ils s'attendaient à le voir accompagné d'une autre personne. Monsieur Germaine adressa une singulière question à son ami. « Où est votre femme ? » demanda-t-il. Monsieur A répondit pour la dame absente par une simple petite excuse exprimée par ces paroles. « Elle a un fort rhume. Elle est très désolée. Elle m'a prié de vous présenter ses excuses. » À peine avait-il articulé ces mots que parut un autre gentleman, seul également. Ayant encore recours à l'alphabet, je l'appellerai Monsieur B. Je remarquai de nouveau que notre hôte et notre hôtesse tressaillirent lorsqu'ils le virent entrer seul dans le salon. Et à ma grande surprise, j'entendis M. Germaine adresser au nouveau convive cette curieuse question. « Où est votre femme ?» La réponse, avec une légère modification, fut la simple petite excuse de M. A, répétée par M. B. « Je suis très désolée. Madame B a une forte migraine. Elle est sujette aux migraines. Elle m'a prié de vous présenter ses excuses. » M. et Mme Germaine se regardèrent. Le visage du mari exprimait clairement le soupçon que cette seconde excuse avait éveillé dans son esprit. La femme demeura ferme et calme. Un intervalle s'écoula, un intervalle silencieux. M. A et M. B se retirèrent, comme deux coupables, dans un coin. Nous nous mîmes, ma femme et moi, à regarder les tableaux. Madame Germaine, la première, rompit notre intolérable silence. Il paraît qu'on attendait encore deux convives pour compléter la société. « Dînerons-nous de suite, Georges ? » dit-elle à son mari. « Ou attendrons-nous, monsieur et madame C ?»« Nous attendrons 5 minutes, » répondit-il brièvement, avec l'œil fixé sur monsieur A et monsieur B, honteusement confinés dans leur coin. La porte du salon s'ouvrit. Nous savions tous qu'on attendait une troisième dame mariée. Nous regardâmes tous la porte avec une anxiété indicible. Notre espérance muette reposait silencieusement sur l'apparition possible de cette Madame C. Cette femme admirable, mais inconnue, allait-elle à la fois nous charmer et nous soulager par sa présence? Je frémis en l'écrivant. Monsieur C entra dans le salon et y entra seul. Monsieur Germaine varia subitement la formule de sa demande en recevant le nouveau convive. « Votre femme est-elle malade ? » demanda-t-il. Monsieur C était un homme âgé. Monsieur C avait vécu, en jugé par les apparences, à l'époque où les lois surannées de la politesse étaient encore en vigueur. Il découvrit dans leur coin ses deux confrères mariés sans leur femme et il excusa la sienne de l'air d'un homme franchement honteux. « Madame C est si désolée, elle a un fort rhume. Elle regrette tant de n'avoir pu m'accompagner. » À cette troisième excuse, l'indignation de M. Germaine se fit jour par ses paroles. « Deux rhumes et une migraine, » dit-il avec une politesse ironique. « J'ignore, messieurs, comment s'accordent vos femmes quand elles se portent bien, mais lorsqu'elles sont malades, leur unanimité est merveilleuse. » On annonça le dîner au moment où ce sarcasme s'échappait de ses lèvres. J'eus l'honneur de conduire Madame Germaine dans la salle à manger. La perception de l'insulte tacite à elle adressée par les femmes des amis de son mari ne se traduisit que par un tremblement, un très léger tremblement, de la main qui reposait sur mon bras. Mon intérêt pour elle s'en décupla. Une femme, accoutumée à souffrir, brisée et disciplinée jusqu'à se maîtriser, pouvait seule supporter comme elle, depuis le commencement jusqu'à la fin de la soirée, le martyre moral infligé à cette femme. Est-ce que j'exagère en appliquant ces termes à mon hôtesse? Considérez les circonstances telles qu'elles nous frappèrent, ma femme et moi, deux étrangers. C'était le premier dîner que donnaient M. et Mme Germaine depuis leur mariage. Trois des amis de M. Germaine, tous trois mariés, avaient été invités avec leur femme, et ils avaient évidemment accepté l'invitation sans réserve. Quelle révélation s'était donc produite entre l'envoi de l'invitation et le dîner? Il était impossible de le dire. Mais ce qui était évident, c'est que, dans l'intervalle, les trois femmes s'étaient entendues pour laisser à leur mari le soin de les représenter à la table de Madame Germaine, et ce qui était encore plus étonnant, c'est que les maris avaient approuvé la conduite grossièrement impolie de leurs femmes jusqu'à consentir à offrir, pour leur absence, les excuses les plus insolemment triviales. Quel affront plus cruel pouvait-on adresser à une femme au début de son mariage, à la face de son mari et en présence de deux étrangers d'un autre pays? Le mot « martyr » est-il trop fort pour exprimer ce qu'une personne sensible devait souffrir d'un pareil traitement? Je ne le pense pas. Nous prîmes place à table. Ne me demandez pas de vous décrire la plus misérable des réunions humaines, la plus fatigante et la plus lugubre des fêtes mondaines. C'est déjà trop que de se rappeler cette soirée. En vérité, c'est trop. Nous fîmes, ma femme et moi, de notre mieux pour maintenir la conversation sur un terrain aussi aisé et aussi inoffensif que possible. Je peux dire en toute vérité que nous nous y employâmes ferme. Et pourtant, notre succès n'était pas encourageant. Malgré nos efforts pour n'y point prendre garde, les trois places vides des femmes absentes parlaient d'elles-mêmes dans leur lugubre langage. Malgré nos efforts pour la repousser, nous nous sentions envahis par la triste conclusion que ces places vides persistaient à imposer à nos esprits. Il n'était que trop évident que quelque terrible bruit concernant la réputation de la malheureuse femme qui occupait le haut bout de la table avait éclaté inopinément et, d'un coup, l'avait détruite dans l'estime des amis de son mari. En présence des excuses du salon, en présence des places vides de la table de la salle à manger, que pouvaient utilement faire les convives les plus bienveillants pour assister le mari et la femme dans leur cruelle et soudaine affliction? Ils ne pouvaient que leur souhaiter le bonsoir le plus tôt possible et livrer miséricordieusement à eux-mêmes les deux époux. Qu'il soit au moins constaté à la décharge des trois gentlemen, désignés par les lettres A, B, C, qu'ils se sentirent assez honteux d'eux-mêmes et de leurs femmes pour être les premiers de la société à quitter la maison. Quelques minutes après, nous nous levâmes pour suivre leur exemple. Madame Germaine nous pria instamment de retarder notre départ. « Attendez quelques minutes, » murmura-t-elle en regardant son mari. « J'ai quelque chose à vous dire avant que vous ne partiez. » Elle nous quitta et, prenant le bras de Monsieur Germaine, elle le conduisit à l'autre bout du salon. Ils eurent ensemble, à voix basse, un petit entretien que le mari termina en portant la main de sa femme à ses lèvres. « Agissez comme il vous plaira, mon amour, » lui dit-il, « je vous laisse entièrement libre. » Il s'assit tristement, perdu dans ses pensées. Madame Germaine ouvrit un petit meuble placé à l'extrémité du salon et revint vers nous avec un petit portefeuille à la main. « Je ne trouve point de mots pour vous exprimer combien je vous suis reconnaissante de votre bonté, » dit-elle avec une simplicité et une dignité parfaites. « Dans des circonstances extrêmement délicates, vous m'avez traité avec la tendresse et la sympathie que vous auriez témoignées à une vieille amie. Le seul retour dont je puisse payer tout ce que je vous dois, c'est de vous admettre dans mon entière confidence et de vous permettre de juger par vous-même si je mérite le traitement que j'ai reçu ce soir. » Ses yeux se remplirent de larmes. Elle s'arrêta pour se maîtriser. Nous la priâmes tous deux de ne pas ajouter un mot, et son mari joignit ses instances aux nôtres. Elle nous remercia, mais elle voulut continuer. Comme la plupart des personnes douées de sensibilité, elle savait être résolue quand elle le croyait nécessaire. « J'ai quelques mots à ajouter, » reprit-elle en s'adressant à ma femme. « Vous êtes la seule femme mariée qui soit venue à notre petit dîner. L'absence marquée des autres femmes s'explique d'elle-même. Il ne m'appartient pas de décider si elles ont eu tort ou raison de refuser de s'asseoir à notre table. Mon cher mari, qui connaît ma vie entière aussi bien que moi-même, avait désiré que nous invitassions ces dames. » Il espérait à tort que son estime pour moi serait partagée par ses amis. Et ni lui ni moi, nous n'avions présumé que les malheurs de ma vie passée viendraient à être révélés par quelques personnes au fait de ces malheurs et dont il nous reste à découvrir la trahison. Le moins que je puisse faire, en retour de votre bonté, c'est de vous placer vis-à-vis de moi dans la même position qu'occupent aujourd'hui les autres dames. Les circonstances qui m'ont amenée à devenir la femme de M. Germaine sont, à certains égards, très remarquables. Elles se trouvent racontées, sans suppression ni réserve, dans un petit récit que mon mari écrivit à l'époque de notre mariage, pour l'édification d'un de ses parents absents, dont il ne se souciait pas de surprendre la bonne opinion. Le manuscrit de ce récit se trouve dans ce portefeuille. Après ce qui vient d'arriver, je vous supplie, comme une faveur personnelle, de le lire tous les deux. Vous déciderez, quand vous connaîtrez tout, si je suis, oui ou non, une personne avec laquelle puisse se lier une femme honnête. » Elle nous tendit la main avec un doux et triste sourire et nous souhaita le bonsoir. Ma femme, avec sa nature impulsive, oublia les cérémonies d'usage et l'embrassa en partant. Devant ce petit témoignage de sympathie sororale, la fermeté d'âme que la pauvre créature avait conservée toute la soirée s'évanouit en un instant. Elle fondit en larmes. Je me sentis aussi tendre et aussi affligé pour elle que ma femme. Mais, malheureusement, je ne pouvais me prévaloir du privilège de ma femme de l'embrasser. En descendant, je trouvai l'occasion d'adresser un mot de consolation à son mari qui nous avait accompagnés jusqu'à la porte. Avant d'ouvrir ceci, dis-je en désignant le portefeuille placé sous mon bras, mon opinion est faite, monsieur, sur un point. Si je n'étais déjà marié, je vous déclare que je vous envierai votre femme. Il désigna à son tour le portefeuille. Lisez ce que j'ai écrit là, dit-il, et vous comprendrez ce que mes faux amis m'ont fait souffrir ce soir. Le lendemain matin, nous ouvrîmes, ma femme et moi, le portefeuille, et nous lûmes l'étrange histoire du mariage de Georges Germaine.